pour investir, le coffre-fort.
Allez, le coffre-fort, 11h48 pour terminer cette émission. Bon, on va parler d'un sujet de saison, c'est les primes d'intéressement, les participations qui commencent à tomber, que vous commencez à recevoir. Ça se passe de mars à mai 2026. On va en parler avec Benjamin Pedrini qui est avec nous. Bonjour Benjamin, bienvenue.
Bonjour Guillaume.
Co-fondateur d'Epsor. Donc il y a 9 millions de salariés qui reçoivent ça en ce moment, hein, mars à mai. Hein,
un peu plus même, on est maintenant à 13,3 millions de bénéficiaires d'épargne salariale, donc un petit peu plus, ouais.
Alors, on va retomber dans des questions... On appelle ça des marronniers dans la presse. Vous savez comment ça se passe tous les ans. Épargne salariale, participation, intéressement. Vaut-il mieux la percevoir directement ou l'épargner? Si on épargne, comment faire les bons choix? Ça en fait des questions. Comme vous voyez les choses, Benjamin, en 2026, là.
Ça fait effectivement beaucoup de questions. Et souvent, quand on reçoit cette prime, hein, à cette période de l'année, on sait effectivement pas trop quoi faire. Et on peut encore plus se poser des questions parce que les marchés sont agités. Si on s'intéresse un petit peu à la situation du moment, on se dit que ça peut poser des questions sur investir ou pas. Oui. Le fait est que, justement, il faut déjà s'y intéresser quand on la reçoit. Et que une des premières questions à se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de liquidité tout de suite ou pas?
Parce qu'il y a la peur du blocage derrière.
Quoi. Exactement, il y a toujours la peur du blocage. Alors il faut savoir effectivement que le blocage, il existe certes, mais il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé sur ces primes-là, et notamment qui répondent à tout un tas de situations de vie où on pourrait avoir besoin de débloquer cette épargne. Et l'autre élément important à savoir, et qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais une partie des ménages qui perçoivent ces primes-là sont imposés, et c'est qu'on va payer de l'impôt sur le revenu on l'aperçoit là où on est exonéré d'impôt sur le revenu si on place. Et donc parfois la différence peut être assez significative, et donc il est plus intéressant de placer pour bénéficier de cet avantage.
C'est intéressant, vous dites on se pose beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas, mais on passe à côté de ça, à côté de certaines opportunités finalement.
On passe à côté de certaines opportunités, celles effectivement de percevoir une somme et de pouvoir l'investir dans la durée en bénéficiant de cette économie d'impôt qui peut être significative en fonction de sa tranche marginale d'imposition, mais à côté d'autres opportunités aussi, puisque dans pas mal d'entreprises, ces primes d'intéressement et de participation peuvent être associées à de l'abondement, et donc ça il faut effectivement s'intéresser au dispositif de son entreprise. Mais lorsqu'on a de l'abondement, c'est l'entreprise qui va ajouter un complément à votre épargne. Vous placez 1000, l'entreprise peut rajouter 100, 200, 500, voire même parfois ça peut aller jusqu'à 300%. Donc en fonction de l'entreprise, les montants peuvent être significatifs.
Ça va jusqu'à 300%.
Le maximum légal sur l'abondement, c'est 300%. Et donc effectivement, il y a des entreprises qui utilisent ce maximum-là et qui offrent 300% d'abondement à leurs collaborateurs. Parfois avec un plafond, parfois c'est 300% d'abondement seulement sur les 100 premiers euros investis. Oui. Mais vous placez 100, entreprise vous en donne 300. Donc il y a toujours cet intérêt-là. Et donc il faut s'intéresser à ce sujet-là, parce que là aussi il peut y avoir une perte d'opportunité si vous n'allez pas d'une certaine façon chercher ces sommes que votre entreprise vous met à disposition.
Absolument. Donc là, ce sont des questions générales qui se posent tous les ans. Alors qui plus est, on est en 2026, effectivement, vous le disiez, l'environnement n'est pas forcément le plus opportun. Qu'est-ce qu'on fait en 2026 en termes de gestion du risque, justement?
Ce qu'on fait en 2026, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on fait chaque année, quoi qu'il en soit. C'est qu'on se pose la question déjà par rapport à sa situation personnelle. L'épargne salariale, que ce soit le PE ou le PER, on est sur du placement qui est du placement moyen ou long terme. Et le vrai sujet, du coup, sur un placement moyen ou long terme, dès lors qu'on a fait le choix d'investir et de ne pas l'apercevoir sur son compte courant, de le placer par rapport à son horizon d'investissement et son appétit pour le risque. Et surtout, on va dire, l'erreur à ne pas faire, c'est de la laisser placer par défaut, ou bien de faire le choix d'aller vers les supports les plus sécurisés qui existent, parce que justement 2026 et on peut avoir un peu peur. On parlait un petit peu plus tôt dans cette émission d'inflation, on est sur le retour de l'inflation.
Il y a le temps de faire son marché, donc
aller sur les supports les plus sécurisés dans ces contextes-là, aller vers les fonds monétaires quand on est un peu averse au risque, ça peut paraître être un choix intéressant. C'est en fait le choix qui fait perdre de l'argent. Donc Donc le sujet justement, c'est de se poser cette question et c'est surtout potentiellement d'être conseillé pour faire ces choix-là. Il y a des acteurs aujourd'hui, c'est le cas nous chez Epsor, on conseille les épargnants et donc bien se poser la question ou utiliser les outils qui sont mis à disposition pour bénéficier d'un conseil par rapport à sa propre situation et éviter justement une perte d'opportunité aussi en allant sur des supports trop sécurisés.
Et voilà, donc il y a le profil épargnant et puis il y a l'outil aussi, vous me dites parmi les questions qu'on se pose, PE ou PER collectif, qu'est-ce qu'on choisit?
PE ou PER collectif, là encore une fois, en fonction de l'entreprise, on a accès à l'un, à l'autre ou aux deux. Le sujet, c'est effectivement... premièrement, pour moi, de regarder les règles d'abondement dont on vient de parler, parce que parfois, certaines entreprises vont vouloir vous inciter à épargner pour votre retraite et donc vont mettre en place des règles d'abondement plus avantageuses sur le PER. Et il est évidemment intéressant d'aller chercher cet abondement additionnel. Donc ça, c'est je pense, le premier sujet à regarder. Évidemment, le PER est... un peu plus bloquant que le PE, puisque les cas de déblocage anticipé sont plus rares. Pour autant, il ne faut pas avoir peur du PER, y compris quand on est un jeune actif, parce que quoi qu'il en soit, déjà, la préparation de sa retraite est un vrai sujet. Le PER, on peut y aller même via des versements volontaires et pas seulement avec l'investissement de ses primes, mais ces versements volontaires sont déductibles de son impôt sur le revenu, donc il y a un vrai intérêt à y aller. Et d'autre part, quand on est effectivement un jeune actif, on peut, avant de penser à la retraite, mais c'est une étape clé aussi dans la préparation de sa retraite, penser à acheter sa résidence principale. Le PER est débloquable pour cette raison-là. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser.
C'est l'occasion de rappeler les autres conditions de déblocage, les autres cas de déblocage.
Alors sur le PER, effectivement, comme je le disais, c'est assez limité. On a évidemment la retraite, c'est un produit qui a vocation de créer une épargne pour la retraite. Donc il y a la retraite, il y a l'acquisition de la résidence principale qui est un vrai sujet et un sujet et une étape clé aussi dans la préparation de sa retraite d'une certaine façon. Et ensuite on a tout un tas de situations qui sont plutôt des accidents de la vie. En revanche, sur le PE, les cas de déblocage sont beaucoup plus fréquents. Vous avez le mariage, vous avez le PACS, des situations moins heureuses comme le divorce ou la dissolution d'un PACS, mais également l'arrivée d'un troisième enfant. Dorénavant, vous avez des nouveaux cas de déblocage sur les violences conjugales, vous avez des cas de déblocage sur les travaux de rénovation énergétique. Donc, les cas sont assez nombreux.
L'éventail est plus large désormais.
Exactement.
Et alors, dernière question, et pas la moindre, que se passe-t-il si on ne fait aucun choix dans le délai imparti de 15 jours, ce qui doit représenter une bonne proportion de celles et ceux qui sont sauvés?
C'est effectivement
à l'intéressement, à la participation, évidemment.
C'est effectivement une bonne proportion chaque année. Ouais. Effectivement, vous laissez, soit vous êtes notifié dans votre application, soit vous recevez un courrier, puis vous ne le traitez pas. Et effectivement, si vous ne le traitez pas, vous allez être investi selon des règles qui sont définies dans la loi et qui sont différentes pour l'intéressement et la participation, qui parfois sont fléchées vers le PE, parfois vers le PER. Donc il faut faire attention parce que la participation pour moitié est fléchée sur le PER, donc bloquée un peu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, vous êtes investi sur les supports les plus sécurisés ou sur une gestion pilotée prudente. Donc ce que je vous conseille, moi, si jamais effectivement vous avez raté le coche au bout des 15 jours, vous avez toujours la possibilité d'aller sur votre application pour gérer votre épargne salariale et réaliser des arbitrages. Si vous avez raté le coche des 15 jours, que vous avez été investi par défaut sur des supports monétaires et que vous avez envie d'avoir une autre allocation, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous connecter et réaliser des arbitrages.
C'est pas rédhibitoire.
Exactement.
D'accord. Et ben voilà, on sait tout en quelques minutes, 6-7 minutes sur BFM Business, tout pour savoir gérer son épargne salariale, prime d'intéressement, participation. On est dans la période mars-mai 2026 pour 13 millions de salariés français. Merci Benjamin.
Merci Guillaume.
Merci beaucoup de passer nous voir, Benjamin Pedrini, le cofondateur d'Epsor, avec nous sur BFM Business. À très vite.